dérèglement climatique,
montée des extrêmes,
crise politique,
terrorisme,
épidémie,
big data. Le monde d'aujourd'hui nous donne tant de raisons d'avoir peur. Mais justement, avoir peur, est-ce vraiment un acte de raison? Plutôt que de fuir tout ce qui est déroutant, angoissant, paralysant, nous vous proposons d'en parler. Car pour affronter ces peurs, quoi de mieux que de les comprendre? Vous êtes les bienvenus dans le Décortiquapeur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous nous demanderons si nous devrions avoir peur que le ciel nous tombe sur la tête. Est-ce qu'un astéroïde pourrait s'abattre sur la Terre et faire disparaître notre espèce? Devrions-nous craindre que l'humanité subisse le même sort que les dinosaures? Pour aborder cette question, nous commencerons par vous proposer une entrée en matière cinématographique et littéraire, illustrant l'importance de ce thème dans l'imaginaire collectif depuis des centaines d'années et jusqu'à aujourd'hui. Puis, nous vous proposerons une analyse historique de la peur des météorites, suivie d'une réflexion théorique sur la peur métaphysique de la fin du monde. Enfin, nous nous entretiendrons avec un astronome de l'Observatoire de Paris qui pourra nous répondre quant à la probabilité scientifique de l'avènement d'une telle catastrophe.
Dans « La fin du monde », film d'Abel Gance dont vous venez d'entendre un extrait, sorti en 1931 pendant les débuts du cinéma parlant, Martial Novalic, astronome dans un observatoire parisien, découvre une nuit dans sa lunette qu'une comète se dirige à toute allure vers la Terre. Sur fond de rivalité amoureuse et intellectuelle, Abel Gance interroge au travers de ce film le comportement des hommes face à l'annonce de ce qui s'apparente en tout état de cause à la fin du monde. Un vent de panique gagne rapidement toutes les couches sociales, les uns profitant des ultimes plaisirs charnels qui leur sont octroyés et s'adonnant à la débauche, les autres, dont l'astronome Martial Novalic, dans un dernier élan vital teinté d'idéalisme, tentant d'établir une république universelle qui annihilerait toute forme de guerre.
Si le cinéaste Abel Gance met à l'honneur dans l'entre-deux-guerres le thème de la fin du monde causée par une météorite, la chute de corps célestes suscite dès l'Antiquité grecque des réactions diverses, entre peur et fascination. Dans l'extrait des Vies parallèles, rédigé vers 100-120, qui va être lu, Plutarque fait le récit de l'ultime bataille de la guerre du Péloponnèse en 405 avant notre ère, dans laquelle la flotte athénienne est détruite par les Spartiates commandés par Lysandre. Cet acte de bravoure, central dans l'élaboration du mythe de la vie de Lysandre, avait été prédit par la chute d'une météorite sur la côte d'Aigos Potamos.
Lysandre fit 3000 prisonniers, au nombre desquels étaient les généraux. Il s'empara de toute la flotte. Ayant remorqué les galères captives et pillé le camp des Athéniens, Lysandre s'en retourna à Lampsac, au son des flûtes et au chant de victoire. Il venait d'exécuter, sans aucune peine, un des plus grands exploits de guerre. Il avait, pour ainsi dire, resserré dans l'espace d'une heure le temps le plus considérable et le plus fécond en événements. Il avait mis fin à une guerre signalée par les coups les plus extraordinaires de la fortune. Une guerre qui, ayant eu successivement les formes les plus variées, produit les plus étonnantes vicissitudes, a mené un nombre infini de batailles par terre et par mer et enlevé plus de généraux que toutes les guerres dont la Grèce avait été jusqu'alors le théâtre, venait d'être terminée par la prudence et l'habileté d'un seul homme. Aussi regarda-t-on ce succès comme l'ouvrage d'un dieu. D'autres prétendent que la chute d'une pierre qui arriva dans ce lieu même fut le présage de cette défaite. Car c'est une opinion générale qu'il tomba du ciel sur la côte d'Aigos Potamos, une grosse pierre qu'on montre encore aujourd'hui, et dont tous les habitants de la Chersonèse ont fait un objet de vénération. On dit même qu'Anaxagore avait prédit qu'un des astres attachés à la voûte céleste en serait un jour arraché par un fort ébranlement et une violente secousse et qu'il tomberait sur la terre. Les astres, selon ce philosophe, n'occupent plus aujourd'hui les espaces dans lesquels ils furent d'abord placés. Comme ils sont d'une substance pierreuse et qu'ils ont beaucoup de pesanteur, ils ne brillent que par la réflexion et la réfraction de l'éther. Mais une opinion plus vraisemblable, c'est que les étoiles qu'on appelle tombantes ne sont, suivant quelques philosophes, ni des fusions, ni des émanations du feu éthéré qui s'éteignent dans les airs au moment qu'elles s'y enflamment, moins encore des embrasements de l'air qui, condensés en trop grande masse, s'échappent vers les régions supérieures et s'y enflamment. Ce sont de vrais corps célestes qui, détachés du ciel par les secousses que leur font éprouver, ou l'affaiblissement de la révolution rapide de l'univers, ou quelque autre mouvement extraordinaire, tombent sur la Terre, non dans les lieux habités, mais le plus souvent dans la grande mer océane, où ils disparaissent à nos yeux. Cependant, l'opinion d'Anaxagore est confirmée par Damacus, qui, dans son traité de la religion, rapporte qu'avant la chute de cette pierre, on vit sans interruption dans le ciel, pendant 75 jours, un globe de feu d'une très grande étendue, semblable à un nuage enflammé, qui n'était point fixe à la même place, mais qui, flottant de divers côtés par des mouvements contraires et irréguliers, était poussé avec tant de violence qu'il s'en détachait des parties enflammées qui, portaient ça et là, jetaient des éclairs pareils à ceux des étoiles tombantes. Lorsque ce globe fut tombé sur la côte de l'Hellespont et que les habitants du pays, revenus de leur frayeur, eurent accouru pour l'examiner, ils n'y trouvèrent aucun indice, aucune trace de feu. Ils ne virent qu'une pierre immobile qui, quoique assez grande, paraissait à peine une très petite portion du globe de feu qu'on avait vu d'abord.
Dans l'Antiquité et jusqu'au Moyen-Âge, la chute d'une météorite est donc assimilée à une manifestation du divin. Elle peut être considérée comme un bon ou un mauvais présage. En fait, les météorites sont des objets qui ont une véritable consistance historique et qui ont accompagné les croyances et les fantasmes de bien des époques.
On a plusieurs phénomènes qui ont été recensés dans l'histoire. Par exemple, au moment de la mort de César, une comète passe dans le ciel qui a été appelée la comète de César et qui a été interprétée comme un signe de sa déification. Et au moment de sa mort, en fait, la situation politique était très tendue et le passage de cette comète a permis en fait, de prendre une décision quant à la nature de ses funérailles. On a d'ailleurs la date exacte du passage de cette comète, c'était le 25 mai -43 et elle a été évoquée par Virgile et Ovide notamment. Donc la météorite a souvent été un objet de vénération, un objet qui représentait l'incarnation du pouvoir, et on a plusieurs exemples de cette idée, donc notamment l'Omphalos à Delphes, ou encore la pierre noire de la Kaaba à la Mecque. Donc avec le Moyen-Âge et le monothéisme occidental, les chutes de corps célestes prennent une dimension plus négative, et l'exemple le plus frappant est celui des grandes peurs de l'an 1000. Donc l'an 1000 a été interprété par l'histoire du 19e siècle comme une rupture marquée dans l'historiographie, entre un âge plus pacifique et l'arrivée prochaine de la fin du monde et ensuite du retour du Christ. Donc même si cette interprétation a été remise en cause par l'historiographie contemporaine, on peut encore relever dans les sources la mention d'une certaine instabilité du pouvoir, mais aussi d'angoisse existentielle et religieuse. Donc cette interprétation millénariste est fondée sur la lecture de l'Apocalypse de Jean dans le Nouveau Testament, et le millénarisme voit le retour du Christ 1000 ans après le début de son règne, et donc les sources interprètent en fait une série d'événements naturels comme annonciateurs du retour du Christ, et donc avant tout de l'Apocalypse et du jugement dernier. Chez des chroniqueurs comme Raoul Glaber ou Sigebert de Gamblou, on a la mention passage d'une comète qui est interprétée comme un événement surnaturel annonciateur de la venue prochaine du Christ. L'observation de corps célestes est en fait tout au long de l'histoire assez fréquente. Elle a pu être associée à des victoires ou à des échecs, et en fait on en fait un peu ce que l'on veut. Ce qui prévaut néanmoins dans les sources littéraires, c'est qu'on ne comprend pas ces phénomènes. On cherche à les rationaliser, à les rattacher à un événement majeur de l'humanité, mais on ne cherche pas vraiment à les comprendre, plutôt à les interpréter. On peine à identifier l'origine extraterrestre des météorites, et elles sont appelées des pierres de foudre ou des pierres de tonnerre. Elles sont considérées comme des pierres magiques, qui peuvent faire l'objet de cultes et qui sont assimilées la plupart du temps à des manifestations du divin. Même si on a des traces de documentation de météorites ou de corps célestes à partir du 2e millénaire avant Jésus-Christ en Europe ou en Chine, on retrouve que très peu de suppositions sur leur origine et rien de vraiment concret. L'influence de la religion chrétienne tend ensuite carrément à rejeter l'existence des météorites en tant qu'objets célestes, puisque la conception aristotélicienne du ciel ne permet pas l'existence de petits objets célestes. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que des premiers fragments de météorites soient analysés chimiquement, même si les scientifiques qui s'en occupent ne font pas de découvertes concluantes. Ce n'est qu'en 1803, avec l'étude de la chute de milliers de pierres sur la commune de L'Aigle, en Basse-Normandie, que la communauté scientifique se convainc finalement de l'origine extraterrestre de ces corps célestes. Donc grâce au rapport très documenté du jeune physicien Jean-Baptiste Biot, les météorites deviennent finalement un objet de science, et ce n'est donc qu'au XIXe siècle que les météorites, puis progressivement d'autres objets célestes, sont étudiés comme tels. La communauté scientifique se met d'ailleurs assez rapidement d'accord sur le fait que ces objets ne proviennent pas de notre propre atmosphère, mais bien de l'espace. De nos jours, l'étude de ces objets s'est rapidement complexifiée, notamment grâce à l'évolution des techniques de recherche qui ont véritablement bouleversé notre conception de l'espace extraterrestre.
Cette peur irrationnelle peut trouver des échos concrets aujourd'hui dans le mouvement survivaliste, qui cherche à se prémunir de toute catastrophe, de l'attaque nucléaire à l'invasion extraterrestre, en passant par la chute des météorites.
J'annoncerai demain la fin du monde. Et vous verrez les difficultés diplomatiques s'évanouir comme par enchantement.
D'un point de vue théorique, on peut rattacher la peur qu'une météorite s'écrase sur Terre à une angoisse plus générale et métaphysique, la peur de la fin du monde. On peut alors s'interroger sur les implications anthropologiques de cette peur. Qu'est-ce qui nous pousse, nous, humains, à craindre sans cesse que notre univers s'effondre? Cette crainte ne ferait-elle pas signe vers des caractéristiques propres à notre humanité? Pour Emmanuel Kant, la peur de la fin du monde est une crainte narcissique. C'est l'affect que ressent l'homme qui envisage la totalité sans dépasser son propre point de vue. Pour résumer, c'est ce qui se produit quand l'homme, se sentant coupable de sa propre imperfection, imagine qu'il va être puni pour celle-ci. Il confond alors le monde avec l'humanité et s'imagine que parce que l'humanité ne parvient pas à atteindre un idéal de justice, alors le monde va s'effondrer. La logique sous-jacente à cette crainte peut avoir un écho judéo-chrétien. Dans cette lecture, nos sociétés auraient appris à vivre en se considérant coupables du péché originel. L'imperfection de l'homme conduirait une entité mystérieuse et furieuse à vouloir se venger en faisant souffrir l'humanité. Vivre en ayant l'impression d'une menace perpétuelle venant d'un au-delà transcendant, c'est vivre en prenant pour acquise la culpabilité de l'être humain dans sa nature même. Ainsi, la peur qu'une météorite s'écrase sur Terre serait le signe de notre faiblesse. Elle fait appel à nos affects et non à notre raisonnement. Kant écrit dans son ouvrage « La fin du monde »
« Les signes annonciateurs du dernier jour sont tous du genre terrifiant. Certains les reconnaissent dans le triomphe de l'injustice, dans l'oppression des pauvres. D'autres les voient dans des changements inhabituels de la nature, comme des tremblements de terre, des inondations ou des comètes et des météores. »
Il s'agit bien d'une crainte non rationnelle, mais morale, voire religieuse, renvoyant au sacré, qui nous en dit peut-être bien plus sur la manière dont l'homme perçoit sa propre humanité que sur une menace réelle qui surplomberait notre planète. Pour autant, la chute d'une météorite sur Terre reste un risque qui existe en puissance, que les sociétés tentent parfois d'évaluer, auquel elles souhaiteraient se préparer. L'Office fédéral de la protection de la population suisse publie par exemple en 2013 un rapport sur les risques de catastrophes et de situations d'urgence en Suisse, visant à répondre aux questions suivantes : que peut-il se passer et quels dangers courons-nous ? Ce rapport doit permettre à ce pays de fonder une planification préventive et de se préparer à la maîtrise de divers événements qui pourraient mettre en danger le pays, afin de mettre en place une réaction rapide et efficace, une plus grande résilience de la société. Ce rapport repose donc sur une analyse des risques qui se subdivise en trois niveaux. Évaluation des risques, qui relève des milieux scientifiques, gestion des risques, qui relève essentiellement de la politique, et communication des risques. Pour ce qui est de la gestion des risques, l'Office fédéral de la protection de la population suisse établit différents scénarios pour anticiper la chute d'une météorite sur le sol suisse en se référant à plusieurs événements antérieurs, comme la chute d'un météoroïde en Russie en 2013. Ce dernier avait explosé dans l'atmosphère et l'onde de choc provoquée par l'explosion avait provoqué de nombreux dégâts, des fenêtres brisées surtout.
François Hamer est astrophysicien et chercheur à l'Observatoire de Paris. Nous sommes allés le rencontrer pour savoir si, selon lui, la chute de corps célestes pourrait constituer un danger pour l'humanité.
Alors, on va commencer par un point de vocabulaire, puisque dans le langage courant, on utilise des termes comme comètes, astéroïdes, météorites de manière indifférenciée. Enfin, généralement, on n'arrive pas trop à différencier ces termes. Est-ce que vous pourriez nous aider à les distinguer ? nous donner peut-être une définition de ces termes ou nous indiquer lequel de ces corps célestes serait le plus dangereux pour l'humanité, ou lequel ou lesquels en tout cas.
Ben, tout à fait. Enfin, bon, d'abord, première chose, c'est pas ma spécialité en astronomie, hein. Mais sur ce genre de questions, j'aurais pas de problème à répondre. On va commencer déjà par la taxinomie, c'est-à-dire comment ils s'appellent. Il y a une différence assez fondamentale entre les comètes et les astéroïdes, parce que les comètes, en fait, sont des objets qui ont des orbites passant proches du Soleil et qui sont faits en particulier de substances qui sont très volatiles. Et quand elles passent près du Soleil, on les connaît bien, puisque ça fait la queue de la comète. L'astéroïde, il n'y a pas de queue d'astéroïde. Donc là, on est dans un système complètement différent. C'est des gros cailloux qui sont plus petits que des planètes, donc ont des formes un peu bizarres, et qui se retrouvent beaucoup entre beaucoup d'entre eux dans le système solaire se trouvent entre l'orbite de Mars et de Jupiter. Voilà. Et les météorites, bah, c'est des tout petits cailloux qui vont nous tomber dessus. C'est la taille au-dessus des étoiles filantes qui, là, sont des poussières de ces cailloux.
Est-ce qu'il est possible de savoir quand est-ce qu'une météorite arrive sur Terre? Et combien de temps à l'avance? Est-ce que c'est possible, par exemple, qu'une météorite rentre en collision avec la Terre sans qu'on ait été absolument au courant?
Alors, pour le météorite, ma réponse est oui, parce qu'il y a des météorites qui ne sont pas plus grosses qu'un caillou. Hein. Donc, répertorier tous les cailloux, ça devient un peu difficile. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, là, récemment, les Russes ont fait exploser un de leurs vieux satellites qui n'était pas très loin de la station spatiale. Et en fait, il y a des débris. Et même en les surveillant, on arrive à surveiller les débris jusqu'à 10 cm, mais en dessous, on n'y arrive plus. Donc non, il y a des météorites. Alors là, pour les météorites qui viennent un peu n'importe où, on ne saura pas. On ne sait pas le faire. Par contre, ce qui a beaucoup changé, et puis ça n'a aucune importance qu'une météorite de 10 cm tombe sur la Terre, puisqu'elle est désintégrée littéralement par l'atmosphère. Donc. Alors deuxième chose, par contre, c'est des cailloux beaucoup plus gros. Mais vraiment, ils sont beaucoup plus gros, astéroïdes cette fois, donc vraiment pas la même classe. Il se trouve qu'on a fait des progrès immenses dans ce sujet, parce que maintenant, il y a plein de télescopes au sol qui passent leur temps à faire ça, des télescopes robotiques, qui passent leur temps à surveiller toute l'atmosphère, tout le ciel, tout le temps. Et maintenant, on a une connaissance assez extraordinaire de ce qui se passe dans le ciel. Donc, les chances qu'il y ait quelque chose qui tombe et qu'on n'arrive pas à le voir, à mon avis, sont plutôt faibles. S'il s'agit d'un objet de très grande taille, hein, d'un objet dangereux.
Est-ce qu'on a des moyens envisagés, dans le cas où il y aurait par exemple un astéroïde dangereux qu'on prévoirait, pour s'en protéger, voire le dévier, ou bien des moyens qui sont en train d'être pensés? Est-ce que ça, c'est envisageable ou pas du tout?
Mais en fait, on vient de parler d'un truc qui servait à exploser un satellite. On se doute que ça peut faire quelque chose sur un gros, très gros caillou. D'accord. Contre, si c'est un très, très, très gros, tellement gros caillou que là... voilà, mais si c'est un caillou de la taille d'un satellite qui faisait plusieurs centaines de tonnes, ça le fait quand même.
D'accord, donc ça serait le détruire, mais il n'y aurait pas de risque que ça retombe du coup?
Si, il y aurait des risques quand même, d'ailleurs, avec le satellite en question, en fait. Après, ça dépend comment on tire, enfin, après, il y a plein de choses. Il y a des moyens. En tout cas, la réponse, il y a des moyens, si ce n'est pas trop gros.
Est-ce que vous avez en tête des exemples, enfin, des cas d'astéroïdes qui sont entrés en collision avec la Terre récemment et qui ont posé vraiment problème, ou bien des cas plus spécifiques? Par exemple, en 2013, en Russie, je crois qu'il y a une météorite qui s'appelait la météorite de Chelyabinsk qui a explosé, elle, dans l'atmosphère, ce qui a créé des ondes de choc qui ont eu des conséquences absolument terribles en Russie. Est-ce que ça, c'est un cas particulier, ou ça arrive souvent que ça se passe par des phénomènes d'ondes de choc comme ça?
Ouais, en fait, là, j'avoue que je ne saurais pas vous répondre. Par contre, il y a un astéroïde qui va passer en 2029, c'est un gros astéroïde, hein, en 2029, je crois que c'est à typiquement un dixième de la distance Terre-Lune, typiquement 30 000 km. C'est-à-dire une orbite qui correspond à ce qu'on appelle les orbites géostationnaires. C'est les orbites dans lesquelles, quand vous mettez un satellite là, il tourne à la même vitesse de la Terre, c'est-à-dire il reste fixe par rapport à un point de la Terre. Ça s'appelle l'orbite géostationnaire. Donc cet astéroïde géant va se rapprocher de la Terre à cette distance-là. Donc j'ai lu un article là-dessus, ils étudient la façon dont les forces de marée de la Terre pourraient extraire de la matière de ce truc-là et la faire tomber sur la Terre, ce qui pourrait être dangereux. Mais c'est... Comment dire? C'est pas un grand danger, quoi. Ça ne fait pas frémir du tout, voilà.
D'accord.
Voilà.
Alors, une autre question, l'astéroïde le plus gros qu'on a prévu pour l'instant, c'est donc en 2029.
2029, oui, il y a vraiment un passage proche, mais c'est, il ne tombe pas sur la Terre.
Hein. D'accord, oui, oui. Ouais.
Il passe près de la Terre, mais bien plus près que la Lune, hein, donc quand même. Et bon, sur une orbite où il peut... Enfin, si jamais il se désintégrait là, ce ne serait pas bien. Voilà, mais il n'y a aucune raison qu'il se désintègre. Ouais.
Dans l'Antiquité, les météorites, elles étaient vecteurs d'un message divin, ou religieux, ou moral. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec la période contemporaine en disant que les météorites, les astéroïdes nous donnent beaucoup d'informations sur le système solaire et donc sont vecteurs d'un message scientifique? Est-ce qu'actuellement c'est toujours le cas ou bien est-ce qu'on a tiré tout ce dont on pouvait savoir
Déjà, la première chose qu'on pourrait quand même dire, c'est que c'était moins des astéroïdes que des comètes qui ont un impact justement dans l'histoire humaine. La raison, elle est simple, hein, c'est que les comètes, on les voit la nuit, on les voit pendant plusieurs mois. Parce qu'une météorite, quand elle passe, on la voit... c'est la seconde, hein, c'est l'étoile filante, hein, c'est le principe de l'étoile filante. On voit quelques secondes, quand c'est une très grosse météorite, on voit quelque chose de plus gros. Et ça se désintègre littéralement, en fait, il ne reste plus rien. Hein. Par contre, les comètes, c'est complètement différent. Les comètes, elles voyagent, elles, dans le système solaire. Quand elle est proche du Soleil, il y a une gigantesque queue qui se forme, la queue de la comète. Et cette queue, elle tient pendant plusieurs mois. Et d'ailleurs, ça a fait une des grandes frayeurs de l'histoire, ça a été justement en 1910, c'est que la Terre est rentrée dans la queue de la comète. Il y avait des gens qui croyaient qu'ils allaient être asphyxiés. Et en fait, non, ils ne pouvaient pas être asphyxiés parce que c'est tellement ténu par rapport à l'atmosphère de la Terre qu'évidemment, il ne s'est rien passé. Pour vous donner l'équivalence, c'est l'équivalent si vous êtes dans un cyclone et que vous soufflez. Votre souffle ne va pas changer le cycle.
Donc c'est des échelles complètement incommensurables.
Oui. Donc il n'y a pas de message particulier dans les faits, hein, c'est ça que ça veut dire. Parce que les comètes, on connaît, maintenant on connaît un certain nombre de comètes, on connaît leur période. C'est des objets qui sont intéressants par rapport à ces questions-là. Parce que c'est des objets qui peuvent parfois nous venir de très très loin. Ils ont des orbites complètement excentriques, elliptiques. Ils passent très près du Soleil, mais ils vont très très loin du Soleil. Certains d'entre eux vont même au bout du système solaire. Et ceux-là sont intéressants parce qu'on soupçonne que c'est ce type d'objets, alors soit comètes, soit astéroïdes, qui sont par exemple responsables de la disparition des dinosaures. Donc il y a quand même quelque chose.
Il y a quand même quelque chose.
Mais il y a un certain temps quand même, pour le coup.
Et ça, ce serait envisageable à une très large échelle de temps que quelque chose comme ça se reproduise.
Alors en fait, ça par contre, c'est quelque chose que les astronomes ont étudié, ils ont regardé ça. Alors c'est pas complètement sûr, mais il y a une région dans le système solaire qui s'appelle le nuage d'Oort, ceinture d'Oort, qui est une gigantesque région qui entoure tout le système solaire, qui va très loin, puisqu'elle va presque jusqu'à la prochaine étoile. Et là, s'il y a une perturbation de cette région, il peut y avoir plein de comètes et plein d'astéroïdes qui tombent vers le centre du système solaire, donc vers la Terre. Et on soupçonne, alors ça c'est des soupçons, on n'est pas sûr, mais il y a des gens qui ont montré ça, que quand le système solaire passe dans des régions denses dans la galaxie, justement il y a des étoiles ou des nuages de gaz qui passent près de cette ceinture d'Oort, qui dévient des objets qui sont, il y en a des milliards, des centaines de milliards, qui dévient certaines de ces comètes, qui les font plonger vers le centre, et qui auraient été responsables de la disparition des dinosaures, enfin de l'ensemble des catastrophes qui ont eu lieu, en particulier des catastrophes biologiques qui ont réduit la biodiversité. Donc on pense que ça marche. Mais c'est pas sûr, mais enfin, voilà. Donc il y a une prédiction quand même. Et aujourd'hui, le système solaire est dans un endroit où il n'y a rien. C'est-à-dire un endroit complètement vide, il n'y a absolument rien. Donc en ce moment, on est en fait dans la meilleure période. Donc s'il y a le moment où il ne faut vraiment pas craindre quelque chose, c'est maintenant.
D'accord.
C'est le moment le plus sûr, en ce moment.
Du coup, ça amène à ma dernière question. Est-ce que donc on n'a pas aujourd'hui de raison de craindre véritablement une collision d'un corps céleste avec la Terre, en tout cas avant vraiment beaucoup d'années?
Un nombre d'années conséquent, effectivement. Non, là.
Est-ce qu'on peut avoir une échelle du nombre d'années où on ne peut même pas se rendre compte de ça?
On est sur le million d'années là.
Sur le million d'années.
Ouais. Précisément, je dirais pas plus, mais je dirais que oui, avec le fait que on n'a jamais eu autant de systèmes de surveillance. On n'est pas du tout dans un cas où les probabilités sont élevées d'avoir des chutes d'astéroïdes. Franchement, ce n'est pas un sujet, à mon sens. Il y a d'autres sujets, en particulier sur c'est l'activité humaine sur l'atmosphère. Ça fait très mal, ça. Et il y a des prédictions astronomiques là-dessus. Les gens étudient ça. Ils commencent à étudier comment des civilisations peuvent être créées et peuvent survivre. Sachant qu'il faut un certain temps avant qu'elles arrivent à un niveau d'activité pour pouvoir polluer leur propre planète. Il y a des gens qui affirment même que, en fait, aucune espèce ne peut survivre à cause de ça.
Du point de vue de la science, on comprend que nous n'avons aucune raison rationnelle de penser qu'un astéroïde puisse s'écraser sur la Terre. Et pourtant, cette peur ancestrale reste dans nos esprits, sûrement à cause de l'immensité du système solaire, qui interroge par son mystère. En tout cas, s'il y a bien un danger qui nous menace de là-haut, et nous le savons, c'est celui de la destruction de l'atmosphère à cause du rejet de gaz à effet de serre. Cette angoisse proprement contemporaine fera l'objet d'un des prochains épisodes du Décortiqueur. D'ailleurs, le film Don't Look Up, récemment sorti sur Netflix, mélange les deux thèmes que sont la collision des astres et le réchauffement climatique. Adam McKay, le réalisateur, utilise la métaphore d'une comète tombant droit sur la Terre pour parodier le comportement de nos sociétés occidentales face au réchauffement climatique. Dans ce film, deux astronomes découvrent l'existence d'un astéroïde d'une dizaine de kilomètres dont la trajectoire vise la Terre et qui risque d'anéantir l'humanité s'il n'est pas détruit. Face au consensus scientifique et au danger criant que constitue cette comète, le gouvernement, les médias, mais aussi l'opinion publique restent incrédules, inactifs, préférant accorder leur attention à des buzz médiatiques. L'attitude de déni mise en scène tout au long du film constitue une parodie directe du comportement de nos sociétés face au réchauffement climatique. Et ce qui est mis en avant, c'est notre responsabilité face à ce type de danger. Le déni, dans ce cas, est lié au sentiment de toute-puissance que les avancées technologiques nous procurent. La peur apparaît alors comme une émotion positive, lorsqu'elle est bien placée.
Et maintenant, nous vous proposons quelques pistes littéraires et cinématographiques pour prolonger cette radiographie de la peur des météorites. On l'a vu avec Abel Gance, le grand écran s'est saisi du sujet à bras-le-corps, notamment dans les années qui ont précédé le changement de millénaire, comme si l'on observait une résurgence de cette peur face à l'arrivée de l'an 2000. L'année 1998 voit en effet la sortie concurrentielle de Deep Impact, réalisée par Mimi Leder, et d'Armageddon, réalisée par Michael Bay. Ces deux films américains ont pour point de départ la prise de conscience de l'arrivée imminente d'une comète sur la Terre. Armageddon traite le côté pragmatique du détournement ou de la destruction de l'astéroïde par une équipe d'astronomes composée de Bruce Willis, Ben Affleck ou encore Steve Buscemi. De l'autre côté, Deep Impact s'intéresse aux conséquences physiques et humaines de la chute de la météorite sur un pays dirigé par un Morgan Freeman, dépassé par les événements. L'annonce de la fin du monde liée à la collision entre un corps céleste et la Terre sert aussi d'argument pour des comédies, comme Seeking a Friend for the End of the World de Lorraine Scafaria, sorti en 2012, année qui devait effectivement marquer le 12 décembre l'apocalypse, selon certains mystiques. Côté littérature, on peut se plonger dans la nouvelle fantastique de Lovecraft, La couleur tombée du ciel, publiée en 1927, et adaptée en manga en 2020 par Gō Tanabe dans la série Les chefs-d'œuvre de Lovecraft.
C'est tout pour aujourd'hui, et on vous laisse avec Mr. Giant Meteor de Bars and Bars.
A golden purple sky set before our wide eyes as the air sings our praises through the trees of our lives. Wait. What is that up in the sky? It's shimmering so silver and white. It's so bright. I think it might. Yeah, it's Mr. Giant Meteor. He's back again like he was before when he visited the dinosaurs. And now he's back to save the world again and stop all us humans from destroying it. Never thought we'd meet again. Just when I thought I could use more friends, it's Mr. Giant Meteor for the win. He's here to save the Earth. Just give him a wide berth, 'cause he'll be obliterating everything first. Mr. Giant Meteor, thought you left, but I wasn't sure if we'd ever catch up again.
Well, my daddy always said it's great to see old friends, but it's looking like we'll say goodnight. So put up that fight or flight. You can drop to your knees and give your God a plight, but Mr. Giant Meteor might end your life. But life can be so hard, so it's nice to have a friend who's up in the stars. He sure don't come around very often, but when he does, he sure is fucking awesome. It's Mr. Giant Meteor. Some science geek made up the name, so we'll say Mr. Giant Meteor for short. I guess we don't have to stress about getting Greg the rent check. Greg's my crazy landlord, and Greg's been on meth before, but even Greg don't have to stress, cause although he's tried his best, can't seem to stay ahead. But hey, can't smoke meth when you're dead, right, Greg? Mr. Giant Meteor, could've stayed in space, but you've come back to Earth for more, Mr. Giant Meteor. He's here to save the Earth, just give him a wide berth, cause he'll be obliterating everything first.